des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. La fraternité est un concept qui échappe à une seule et unique définition. Ses multiples visages méritaient bien qu'on s'y arrête en compagnie du docteur Dominique Demichel. La fraternité, deuxième partie d'une série de 4 émissions, à retrouver sur notre site www.radiograndciel.fr, rubrique « Des mots pour le dire ».
Sa chance. Je pense que ce serait bien de lui en redonner une.
Pourquoi? Parce que nous, on avait plus de chance que lui, peut-être.
C'est notre frère, quand même. Pense à papa, ce serait important pour lui.
Content de te voir.
T'as des projets?
Ouais. Faire plaisir au juge. Tenir à carreau. Trouver du boulot.
Je vais pas te faire pédigrer de ton frère.
Non mais quoi, on n'a pas le droit d'aider sa famille? J'ai pas eu tourner le dos sous prétexte que je suis flic, juste au moment où il essaie de se ranger.
Salut François. On a une commission rogatoire pour ton frère, on monte le chercher. On a préféré te prévenir avant.
Quoi, qu'est-ce qu'il a fait?
J'ai vraiment cru que t'allais changer.
T'as vraiment cru tout savoir, surtout. Monsieur est toujours du bon côté, jamais du mien.
Comment tu peux dire ça?
Je vais te rendre heureuse.
Putain de merde! J'ai rien quoi
faire! T'es un bon flic, François. Mais ça la fout mal.
Vous croyez quoi, que je le couvre?
Allez, fous le camp.
Je vais vivre avec lui.
Tu veux que je le tue?
Lâche-moi!
J'en ai marre de jouer au gendarme au voleur.
C'est à propos de mon frère. Un mec qui veut le descendre.
Les liens du sang est un film de 2008 réalisé par Jacques Maillot. Dans ce film, Guillaume Canet incarne un inspecteur de police et François Cluzet, un truand. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que les deux sont frères. Et évidemment, on arrive dans une situation assez compliquée. C'est une histoire de famille très compliquée. La psychanalyse, forcément, a dû s'intéresser à la fraternité, docteur Dominique Demichel, avec des situations aussi, aussi complexes.
Oui, je pense que chez les psychanalystes qui sont des hommes tout à fait comme les autres, hein, des hommes et des femmes tout à fait comme les autres, les rapports un peu violents ou parfois très violents existent aussi, même si je trouve ça assez attristant. Voilà. Et ce qui me semble, c'est que il y a plusieurs éléments qui me venaient, et puis ça me fait penser au film de James Bond aussi, peut-être pas le dernier, mais l'avant-dernier peut-être qu'on pourrait évoquer. Il me semble que dans l'histoire de la psychanalyse, il y a des liens de type filiaux qui sont importants. Les liens entre Freud et Jung, par exemple, sont de type plutôt père-fils, par exemple. Mais à l'intérieur de l'histoire de la psychanalyse, je suis très loin d'être un spécialiste là-dessus, il y a des tensions importantes. En tout cas, par exemple, dans le mouvement jungien, et sans du tout citer de nom, parmi, en gros, on pourrait dire les pères fondateurs, en tout cas en France, il y a eu aussi beaucoup de tensions qui correspondent, d'ailleurs le plus souvent, à des personnalités particulières. Par exemple, un introverti, un extraverti, par rapport à quelqu'un qui serait plus dans une approche essentiellement spirituelle de l'inconscient, et puis l'autre qui aurait une approche beaucoup plus pulsionnelle, vous voyez. Et je pense que dans l'extrait du film que vous donnez, c'est comme si on sentait bien que il y avait une différence, mais que c'était la même histoire. Et combien, moi, qui suis attentif à essayer de travailler dans les familles la place que chacun prend, on peut très bien imaginer que dans cette famille, là où il y a le flic et puis le truand, je ne sais pas exactement,
oui, ouais.
Voilà, on peut très bien imaginer qu'il y avait quelque chose de l'ordre du nombre et puis d'une lumière qui s'est répartie, au fond. Il y a eu une sorte de répartition inconsciente des rôles. Et puis, dans quelle causalité ça marche, j'en sais rien. Il y a peut-être une ombre qui s'est concrétisé sur un des enfants qui, lui, a eu besoin de mettre en scène cette ombre familiale et du coup, il est devenu truand. Et puis ensuite, secondairement, il y a eu l'autre qui a eu besoin de dire quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus réparateur, et il est devenu flic. Mais peut-être que la causalité est dans l'autre sens. On voit par exemple combien, de temps en temps, il y a un des enfants qui est l'enfant merveilleux, qui est l'enfant éternel, qui est celui qui a toujours été sage, et il nous a même pas fait une otite quand il était petit.
Le fameux chouchou.
Oui, le chouchou, voilà. Et de temps en temps, l'ombre familiale ne peut pas se déployer du tout. Et alors, il y en a un qui porte cette ombre familiale. Et en portant cette ombre familiale, il rend un immense service à la famille. Hein. Alors dans le film, et souvent à son frère ou à sa sœur, du chouchou dont vous parlez.
Dans le film, à un moment donné, un des personnages demande à son frère s'il est du bon côté. Mais alors, y a-t-il un bon côté dans la fraternité, finalement
Je pense que dans...
C'est-à-dire que les émotions faussent forcément le côté moral et puis...
Il y a deux choses, oui. Les émotions et les sentiments, il faut se rappeler qu'on n'est pas maître de ça. On n'est maître que de ce que l'on fait de ses émotions et de ses sentiments. Hein. Si je rencontre quelqu'un et que je sens de la haine vis-à-vis de lui ou d'elle, c'est pas un problème. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Évidemment, si ensuite je vais l'agresser, ça c'est problématique. Donc l'idée du bon, par exemple, du juste ou du moral, intervient dans la mise en acte, pas dans le ressenti. Voilà. Et puis on peut croiser quelqu'un, on peut croiser une femme, et puis avoir des sentiments, vous voyez, vis-à-vis d'elle. Alors, si ensuite y a une mise en acte qui n'est pas dans le cadre logique du respect et de la bienveillance, ça pose des problèmes. Mais on n'est pas très responsable de ses sentiments. Donc vous voyez, il me semble que la notion de bon et de mauvais, si on la juge dans la famille, il faut différencier ce qui émerge du côté des sentiments et ce qui se met en acte. Évidemment, les actes, on est bien obligé de les juger, c'est-à-dire de leur donner une appréciation d'ordre moral. Et puis, à l'intérieur de soi-même, je reviens à l'intérieur de soi-même, je pense qu'on est toujours tiraillé entre cette polarité de quelque chose qui est plus juste, qui nous paraît aller, et puis d'autres zones d'ombre de nous-mêmes. Et de temps en temps, ces zones d'ombre, elles sont partie prenante de notre identité, et elles peuvent être aussi porteurs de vie.
Alors, de nombreux mythes fondateurs reposent sur la fraternité, on l'a vu dans la précédente émission. Chez les Jungiens, français entre autres, ça a été un sujet important.
Oui, j'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus, essentiellement pour dire en effet que il y a toujours lieu de se dire, par exemple, et c'est intéressant parce que c'est au fond la première question que vous m'avez posée, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce thème de la fraternité ? Et au fond, j'avais pu répondre qu'il y avait l'histoire familiale avec la famille nombreuse, et puis cette autre famille, on pourrait dire, qui était la famille des psychanalystes. Et derrière, en profondeur, on peut toujours se dire que nos centres d'intérêt, ils tiennent à notre histoire, et ils tiennent en particulier à nos histoires d'ombre, vous voyez, hein ? Donc on peut penser que si moi-même je me suis intéressé à la fraternité et parmi d'autres sujets, c'est aussi peut-être parce qu'il y a un espace à explorer pour moi qui a aussi un espace un peu mystérieux, énigmatique, sûrement porteur de vie, mais aussi probablement porteur d'ombre. Hein. Voilà, donc je pense que... Dans en tout cas ce qu'on déploie dans notre vie, il y a toujours une sorte de référence à notre histoire. Hein. Le passé, c'est notre présent intérieur. Hein. C'est ce qui nous détermine tout le temps.
Alors si on poursuit un peu cette histoire de la fraternité...
Et James Bond ?
Ah, j'avais oublié James Bond.
J'avais envie de revenir sur James Bond. Alors moi, je ne suis pas un très grand connaisseur. Vous y connaissez beaucoup plus en cinéma que moi. Mais peut-être vous vous rappelez que dans l'avant-dernier James Bond qui s'appelle Skyfall... Il y a le bon, alors évidemment le bon on sait qui c'est, hein, il n'y a pas de problème, voilà, et puis il y a toujours un mauvais, hein, donc là, voilà. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'on s'aperçoit que le bon, moi j'ai bien aimé ce film-là parce qu'il y a toute une profondeur, il y a toute une histoire, on découvre un James Bond qui est tragique. On trouve la tombe de ses parents, on trouve qu'il a été orphelin très tôt, on comprend que s'il est rentré dans les services secrets, c'est pour se trouver une famille, et qu'il a sûrement perdu sa maman, et puis que sa maman, c'est Madame M, hein, voilà. Et Madame M qui est un peu problématique, parce qu'elle les aime dans ses tripes, En même temps, quand il s'agit de les sacrifier pour l'honneur de la couronne, elle n'hésite pas. Donc vous voyez, elle est à la fois cette bonne mère généreuse qui est prête à envoyer tous les hélicoptères de l'armée anglaise, enfin, je ne sais pas trop quoi, pour sauver un homme. Mais bon, s'il faut qu'il y en ait un qui meure, eh ben, il meurt. Hein. Donc il y a toute cette chose-là. Et je trouve qu'entre ces deux hommes-là, le méchant, je ne sais plus son nom dans Skyfall, et puis voilà, il y a cette forme de rivalité qui est extrêmement, extrêmement importante. Cette impossibilité de se tuer l'un l'autre, hein, le méchant, il pourrait tuer James Bond toutes les deux minutes dans le film, mais il ne le fait pas. Et puis, il y a cet enjeu par rapport à la mère. Hein, voilà, voilà. Alors, évidemment, ça se termine par quelque chose d'un petit peu tragique, mais voilà, à un certain moment, d'ailleurs, on voit presque, il me semble, au début du film, il y a presque un espèce de lien homosexuel entre les deux. Le méchant, là, il vient faire une espèce de petite caresse tout à fait déplacée ou je ne sais plus trop quoi auprès de James Bond. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de fraternité presque qui se jouerait dans une corporéité douloureuse, haineuse, mais on sait bien qu'on a de la haine que pour, vis-à-vis des gens qui comptent pour nous. Hein. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Ou le contraire de la haine, ce n'est pas l'amour, c'est l'indifférence. Hein. Voilà, donc on trouve cette sorte de tension aussi, vous voyez, qui est racontée dans l'histoire contemporaine, qui est racontée dans l'autre monde, avec cette violente confrontation entre le bon et le gentil, entre le méchant et puis le sauveur du monde, qui est aussi une tension qui se joue à l'intérieur de nous tous.
Bien sûr, les étoiles se meurent quand le ciel s'éteint. C'est notre amour qui n'aura jamais de lendemain, mon frère. Bien plus qu'un monde qui s'ouvre à l'un et pour l'autre chavire. Bien plus qu'une mère qui supplie quand l'homme. C'est tout notre amour qui s'éloigne, dérive et se perd, mon frère. Tout s'oublie, chacun avec sa peine, que le temps nous reprenne. Les souvenirs d'un frère, chacun avec sa peine, que le temps nous apprenne à nous aimer en frère. Bien sûr que la terre est brûlée quand la pluie l'oublie. Bien sûr que tout est gris, puisqu'on se l'est jamais dit. Bien sûr l'amour puisqu'il ne peut plus grandir sans terre, mon frère. Bien plus qu'un dernier regard peut décider d'une vie. Bien plus que cette fin d'espoir que le courant charrie. Oh, c'est un amour qui ne trouvera pas de rire. Mon frère, tout s'oublie, chacun avec sa peine, que le temps nous reprenne. Les souvenirs d'un frère, chacun avec sa peine, que le temps nous apprenne. Sera toujours que la moitié d'un tout, puisqu'on ne sera jamais que
la moitié de nous. La moitié de nous, mon frère.
Extrait de la comédie musicale Les Dix Commandements, qui date de l'an 2000, on entend la chanson de Moïse et de Pharaon, qui ont été élevés comme des frères. C'est pas des frères de sang, docteur de Midi Michel, mais ils ont été élevés comme des frères. Et on est une fois de plus devant un rapport compliqué entre deux frères. Et Moïse, en plus, ne s'arrête pas là, parce qu'ensuite, avec son frère Aaron, comme vous me le disiez pendant la musique, c'est aussi compliqué après, quoi.
Oui, je pense que dans une lecture symbolique, on pourrait dire que Moïse et puis le Pharaon, c'est deux figures d'un même personnage, hein. Et il y en a un qui a le pouvoir temporel, le pouvoir réel, le pouvoir politique, on pourrait dire, hein, dans l'Égypte. Moïse, il a le pouvoir spirituel, probablement le pouvoir intérieur, hein. C'est important d'ailleurs de se rappeler que toute la première partie de la Bible, c'est dans la Genèse, c'est que une histoire de filiation, hein. Abraham, Isaac, Jacob, et puis Joseph à la fin. Donc c'est que dans une histoire de filiation. Puis ensuite, il y a une rupture. Puis Moïse, lui, pas de papa, pas de maman. D'un seul coup. Comme s'il arrivait comme ça, d'un seul coup. Voilà, alors il a deux frères, je dirais. Moi, je trouve que votre image est... Je n'avais pas employé ce mot de frère pour Pharaon, mais je trouve que finalement, c'est très juste. Il a cette forme de tension, hein. Et on voit bien que, au fur et à mesure qu'il y a l'émergence de cette puissance intérieure, de cette nécessité d'un travail à partir, dans l'Exode qu'on voit, de travail intérieur, du côté d'un rapport au divin, on pourrait dire, c'est-à-dire d'une mise en sens, d'une perspective de la vie, il y a cet affrontement et que le pharaon, il répond de manière extrêmement violente avec les 10 plaies d'Égypte, dont on pourrait dire ensuite, elles vont, et c'est l'écho avec votre chanson, être en quelque sorte gommé par les 10 commandements, les 10 plaies d'Égypte, et puis les 10 commandements.
Alors, ouais. Juste avant la pause, et juste avant James Bond, je vous posais la question de l'histoire de la fraternité à travers les penseurs du XXe siècle, avant. Alors, est-ce qu'on peut avancer sur ce sujet ?
Oui, ça me donne le sentiment, là il faudrait demander aussi à des gens probablement nettement plus savants que moi, mais que cette question de la fraternité, elle a pas agité énormément les penseurs, en tout cas du XXe siècle. Il y a une espèce de quasi-indifférence quand ce n'est pas un petit peu de dérision, voire de moquerie.
On a l'impression que ça revient maintenant, le vivre ensemble, oui. On en parle beaucoup. Oui. Alors, est-ce que vivre ensemble et fraternité, c'est la même chose ? Ça se rejoint quelque part, en tout cas, dans un certain aspect.
Je pense que c'est important de voir en quoi le mot fraternité, pendant très longtemps, a été un petit peu stigmatisé. Oui. C'était essentiellement parce que c'était un peu une histoire un peu trop gentille, un peu naïve. La fraternité, c'était bon pour les francs-maçons, hein, qui sont tous frères, ou c'était bon pour des histoires de bondieuses, quoi, hein, le bondieuse dont on sait quand même qu'il peut y avoir, en tout cas de mon point de vue, un côté un peu naïf, idéalisé, voilà, tous les scouts sont frères, on est tous des frères, et puis dans quelque chose qui ne vient pas tenir compte de la partie d'ombre qui fait le lien de fraternité. Alors moi, j'ai été très frappé dans cette chanson que je ne connaissais pas, de voir qu'elle était, au fond, à la fois avec une musique dans un mode mineur, hein, c'était pas en do majeur, hein, éclatant et tout ça, et puis qu'au fond, ce qui semblait, j'ai pas tout compris, mais ce qui semblait réunir, finalement, c'était une sorte de blessure commune, hein. Et ça, c'est tellement important de saisir combien ce qui fait le lien entre les gens, c'est le tragique, c'est la blessure, c'est la souffrance partagée. Alors, il ne s'agit pas de souhaiter à tout le monde, vous avez envie de votre frère, ben, je vous souhaite un grand malheur. Non, bien évidemment. Mais de faire l'expérience que ce qui va relier, c'est le drame partagé, c'est la souffrance partagée, c'est l'écoute de l'un et de l'autre, l'écoute mutuelle de l'un et de l'autre, hein.
En termes de nation ou de communauté, ça peut être aussi de grandes joies. Je pense à 98, tous les Français étaient tous ensemble, pour le coup, fiers d'être Français et puis et tous ensemble dans la rue, quoi.
Oui, je me souviens
ça très duré, bien. Ça a duré quand même, hein, c'est resté...
Je pense
qu'on en parle encore, c'est resté voilà. Un peu comme quelque chose d'un peu mythique. Oui. Il y a eu 98, voilà.
Oui, c'est
voilà,
ça, comme une espèce de grande nostalgie.
Oui, exactement. Exactement, ouais.
Je vous rappelle que nostalgie, l'étymologie, c'est nostos, le retour, et algie, hein, névralgie, cervicalgie, ouais. Lombalgie, ça veut dire la douleur.
Mais, et de la même manière que les derniers attentats, entre autres celui de Charlie Hebdo, a aussi créé, on a un sentiment, oui. Une espèce de fraternité entre les gens, en tout cas une solidarité.
Je pense.
Fraternité, solidarité, vivre ensemble. Oui. Tout ça, bien sûr, oui. Ce sont des mots différents, mais...
Oui. J'aurais, moi, tendance à penser que les grands événements heureux, ça peut créer une sorte de pseudo-fraternité extravertie, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, parce que finalement, on ne partage rien en commun. Juste, on a été les champions du monde de foot.
Bon, c'est un exemple, enfin, mais...
La belle affaire.
La libération de Paris,
d'accord.
Tout ça, voilà.
Ça, c'est du côté du tragique. C'est comme ce qui s'est passé au niveau des attentats à Paris ou après, en janvier, ou le Bataclan au mois de novembre.
Voilà.
Là, c'est autre chose. Parce qu'il y a quelque chose d'une sorte de statut commun d'humain mortel. Ça nous rappelle notre mortalité, hein. Et je citais dans ma première petite phrase au tout début, cette petite phrase de Tocqueville, hein, qui est quand même, c'est génial, de tout ce qu'il a écrit, cet homme-là. Et il dit « Les hommes se dévouent rarement les uns pour les autres, mais ils montrent une compassion générale pour tous les membres de l'espèce humaine. » Et on pourrait rajouter « à condition qu'il y ait du drame ». Dès qu'il y a du drame, alors il va y avoir quelque chose qui va favoriser ce rapprochement. Hein. Voilà, donc ça va bien dans le sens où il me semble que 98, ok, mais j'allais dire dans une espèce de jouissance superficielle où finalement on n'a rien en commun d'intérieur, on n'a rien partagé en commun. Simplement, voilà, il y a l'équipe de foot et puis on les invite au barbecue dimanche prochain, on sera bien contents, ça va nous faire plaisir, mais sur le plan un petit peu narcissique. Alors qu'il me semble que quand on partage quelque chose de tragique, alors en général, il y a une plus grande proximité vraiment en profondeur.
Et malgré cela, selon vous, donc, au XXe siècle, la République ne parle pas de fraternité ou bien, en tout cas, laisse ça dans les gens se débrouiller avec cette notion-là.
Je pense qu'on reverra ça dans une prochaine émission autour du mot qui, à mon avis, a remplacé le mot fraternité, qui est le mot solidarité. Hein. Alors la solidarité, donc ça, on en parle beaucoup. Il faut quand même dire que Emmanuel Lévinas est sûrement quand même le philosophe qui a le plus parlé de la fraternité. Il a d'ailleurs un mot, il dit « c'est le complice du pour rien ». Et au fond, j'aime bien cette chose-là, puisque dans la fraternité, l'objectif, il est impalpable. Hein. Dans l'égalité, on pourrait dire, on sait ce que c'est l'égalité, c'est-à-dire l'égalité, ça va me permettre d'exister pleinement. La liberté, ça va pouvoir me permettre de déployer mon identité vraiment. Mais la fraternité, finalement, ça sert à quoi ? Ça n'est pas utile. Il n'y a pas d'utilité pécuniaire. Il n'y a que une modalité particulière d'être ensemble. Ça rejoint votre première question du début qui me semblait être tout à fait important. Et donc, du coup, il y aurait là, en effet, quelque chose de l'ordre d'un art. La fraternité, elle est dans un sens gratuite. C'est-à-dire, comme dit Lévinas, c'est du pour rien. La complicité évoque cette espèce de réciprocité fondamentale dans le jeu de la fraternité, mais dans le sens où on peut se dire le frère de l'autre que si l'autre se dit que je suis son frère aussi. Hein, je ne veux pas être le frère de lui unilatéralement. Hein, voilà. Il n'y a que les curés qui disent ça, hein, qui sont les frères de tout le monde. Mais bon, d'accord, ça ne coûte rien. Hein, voilà, sauf tant qu'on ne s'est pas frotté à l'expérience de l'altérité. Hein.
Alors, vous avez prononcé le mot « identité ». Est-ce que pour vivre une fraternité, il faut d'abord passer nécessairement par une identité, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit propre ? Est-ce que c'est la condition sine qua non d'une altérité et en tout cas d'une fraternité ?
Les philosophes contemporains, c'est pas facile votre question là. Hein. Les philosophes contemporains, ils disent... La subjectivité, ça n'existe pas. Il n'y a que de l'intersubjectivité. Donc j'allais dire, l'espace où on arrive à comprendre le mieux sa propre identité, c'est dans le rapport à l'autre. Hein.
Oui,
donc dans l'altérité.
Oui. En même temps, ça va dans les deux sens, parce qu'on sent bien que cette espèce de crise d'identité, par exemple en France, joue sûrement sur la fraternité qu'il peut y avoir entre les individus qui habitent sur le même territoire. Je parle de la France, je pourrais parler de l'Angleterre qui fait sa campagne sur les migrants pour sortir de l'Europe. On sent une fracture.
Oui, mais vous voyez qu'on peut aussi se dire qu'il y a une dimension projective, puisque vraisemblablement en Angleterre, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois en France, les lieux où l'on vote le plus pour l'exclusion, ce sont les lieux où il n'y a pas d'immigrés. Vous voyez ? Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui se joue du côté d'un manque de mise à l'épreuve de l'altérité. Lorsqu'on met à l'épreuve l'altérité, et lorsqu'on s'aperçoit que finalement le noir, le bleu, le vert, le rouge, que je ne supporte pas, je peux arriver à vivre avec lui quand même, alors du coup, on a moins peur. Vous voyez ? Donc quelque chose de l'émergence de sa propre identité se vit dans la relation à l'altérité, et c'est ça qui fait émerger la fraternité. Sur le plan d'une espèce de causalité ontologique, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a été en premier ? Est-ce que c'est d'abord la liberté ? Est-ce que c'est d'abord la fraternité ? Est-ce que c'est d'abord l'égalité ? Je ne sais pas trop. Moi, j'aurais envie de dire que si les grands mythes disent qu'il y a une espèce de fraternité meurtrière au départ, c'est que l'expérience fondamentale de l'altérité, c'est l'expérience avec son frère et avec sa sœur. Hein. Voilà. Alors moi, je suis l'aîné de 10 enfants. Je me suis disputé avec mes frères et sœurs. Hein. Ça, c'est pas gêné. Maintenant, on s'aime beaucoup. Mais voilà. Voilà. Donc, je mettrais assez volontiers l'idée que l'expérience de la fraternité et l'expérience de l'altérité, parce que c'est la même chose, c'est fondamental. C'est au cœur. Peut-être elle serait première. Hein, vous voyez, sur le plan ontologique, sur l'expérience de l'être, ça serait ça d'abord.
Nécessaire pour élaborer une liberté et une égalité.
Voilà, exactement.
Ainsi s'achève notre émission Des mots pour le dire. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel. Quant à nous, nous nous retrouvons dans 15 jours et d'ici là, soyez fraternels.